Radio Tamani, voici nos informations en français.
Processus de paix au Mali. Le Haut Conseil de l'unité de la Zawad appelle les autorités de la transition à clarifier leur position par rapport à l'accord pour la paix et la réconciliation. Le groupe armé demande aussi au gouvernement plus de retenue dans ses sorties médiatiques. Le bilan de la transition sous l'angle de la gouvernance est diversement apprécié. Si pour certains, ce sont les mêmes erreurs qui se reproduisent, pour d'autres, il y a eu de l'amélioration. Le regard croisé dans ce journal. Multiplication des laboratoires d'analyse privés à proximité des structures de santé publique. Que disent les tests sur cette pratique? C'est le dossier de cette édition. C'était là les titres de ce journal. La présentation, Adama Amadou Haïdara, la mise en onde est assurée par Mamadi Keïta. Bonsoir à tous. Le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad HCUIA invite le président de la transition à clarifier sa position par rapport à l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Déclaration faite à l'issue d'une rencontre extraordinaire de son bureau exécutif tenue le 27 février dernier à Kidal sur la situation du mouvement et du pays. Le groupe armé membre de coordination des mouvements de l'Azawad demande l'application diligente et intégrale de cet accord. Le gouvernement du Mali a plusieurs fois assuré qu'il fera une mise en œuvre intelligente du document. Les détails avec Intal Akbilal.
Selon le Haut Conseil de l'unité de l'Azawad, cette demande de clarification fait suite aux propos tenus par le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Sans donner plus de détails sur ces déclarations, le HCIA exhorte le président de la transition à veiller à plus de retenue dans les sorties médiatiques de son gouvernement. Cela afin d'éviter de rendre vain les efforts déjà consentis pour la paix, ajoute-t-il. Dans son communiqué, le groupe armé signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation dit réitérer son attachement au droit à l'autodétermination du peuple de l'Azawad. Pas de réaction officielle du côté du gouvernement pour le moment. Mais une source jointe au ministère de la Réconciliation rappelle la détermination du gouvernement pour la mise en œuvre de cet accord. Mais elle a tout de même évoqué la nécessité absolue de réviser certaines parties de ces documents. Rappelons que dans son dernier rapport, l'observateur indépendant de la mise en œuvre de l'accord a souligné le manque de progrès dans le processus pendant cette période de transition.
Plutôt qu'une remise en cause des acquis de la paix, cette déclaration du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad est de la communication. C'est en tout cas ce que pense l'analyste politique Boubacar Boukoum. Selon lui, l'objectif de cette sortie du HCIA est de redémarrer la mise en œuvre de l'accord et veiller sur les intérêts du groupe armé au moment où l'on évoque la relecture intelligente du document. Il est joint par Intal Akbilal.
Non, je ne pense pas en réalité qu'il soit en fait d'une remise en cause. C'est juste une communication. Parce qu'en réalité, quand vous observez ce qui se passe, les déclarations du Premier ministre et du ministre Abdoulaye Diop n'ont rien à voir avec la remise en cause de l'accord. Mais la relecture de l'accord est une donnée qui existe, qui a toujours existé. Alors, s'il s'agit de réviser, chacun fait attention pour que cela n'empiète pas par rapport à ses velléités. C'est de bonne guerre. Maintenant, c'est toujours un combat d'idées et de faire valoir effectivement les différentes positions qui sont celles des uns et des autres. Maintenant, le contenu de l'accord, il est toujours discutable parce que en son sein, il y a l'article 65, si j'ai bonne mémoire, qui dit que les partis peuvent se mettre ensemble pour modifier, discuter effectivement de cet accord. Donc, je ne vois aucun problème en réalité.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux, à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Quel bilan de la gouvernance sous la transition? La question a été abordée dans le grand dialogue de Studio Tamani de ce lundi. À ce sujet, les Maliens sont divisés. Alors que d'aucuns trouvent que rien n'a changé, d'autres pensent que la gouvernance sous la transition s'est améliorée. Imran Akilumega revient sur cette discussion.
Membre de l'Union pour la République et la démocratie, Mamadou Diko estime que les choses sont en train de changer en matière de gouvernance.
Elle s'améliore. Vous constaterez qu'il y a très peu de scandales financiers. C'était le quotidien du régime déchu, il faut le reconnaître. Nous savons qu'il y a une espèce d'adhésion populaire à la gouvernance. C'est ce qui constitue, de mon point de vue, un socle pour toute gouvernance. Nous avions à l'époque un régime qui était sorti de la mauvaise gouvernance pour aller carrément dans la non-gouvernance.
Cet avis n'est pas partagé. engagée par Evelyne Jacques Zainab, membre du cadre d'échange de partis regroupements politiques. Elle estime que les pratiques dénoncées sous le régime déchu persistent encore.
Je ne dirais pas que quelque chose a changé. Nous avons été surpris sur les réseaux sociaux de voir le scandale frauduleux des distributions des logements sociaux. On a vu des cadres de cette transition qui se sont octroyés des logements sociaux illégalement. On a vu au niveau de la CANAM où il y a eu des listes additives. Donc si on veut une gouvernance de rupture, on ne refait pas les mêmes erreurs.
Il faut rappeler que le Premier ministre, lors de sa présentation de son plan d'action gouvernemental, a promis une gouvernance de rupture et exemplarité.
Saint, Sikasso ou encore Tominia, plusieurs localités du pays ont reçu de la pluie hier lundi. Ces pluies de hors saison sont appelées pluies de mangue et elles sont provoquées par un saut de mousson, c'est-à-dire le vent du sud-ouest, explique Fatoumata Sango, chef du service prévision à Mali Météo. Elle précise que cette pluie n'a rien à voir avec l'hivernage. Fatoumata Sango conseille à la population de prendre des dispositions contre la chaleur qui s'annonce forte cette année. Elle est jointe au téléphone par Bala Camara.
Cette situation est provoquée par un saut de mousson, ce n'est d'autre que les vents du sud-ouest, ce pays avec assez d'humidité, qui a provoqué un peu de pluie par endroit. Ce qu'on constate actuellement, c'est aussi des situations pareilles, mais qui sont provoquées par d'autres jets forts qui se trouvent en altitude, qui ont provoqué aussi des situations de fine pluie par endroit. Ce qu'il faut savoir, ce sont des pluies hors saison. Donc, c'est ce qu'on appelle pluie de mangue par moment, mais actuellement, cette situation s'est concentrée vers la région de Sikasso et parce que l'installation de la saison pluvieuse est un peu différente de ce phénomène qui est temporaire. Écouter les informations météorologiques, ça peut sauver des vies et puis sauver des biens et s'adapter aussi au temps qui fait. Ce que nous prévoyons dans les jours à venir, c'est une hausse de température, c'est-à-dire boire assez d'eau.
De plus en plus, des laboratoires d'analyse voient le jour à Bamako. Le plus souvent, ces structures privées s'installent en face ou non loin des centres de santé publique. Les malades et accompagnants dénoncent cette situation. Ils affirment être obligés par certains médecins d'aller faire des analyses courantes dans ces laboratoires privés. Selon des responsables du centre de santé hospitalier, cette proximité est une concurrence déloyale. Des allégations que réfute le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Selon ses responsables, les laboratoires d'analyse biomédicale peuvent être installés partout. Ali Cissé.
Nous sommes au centre hospitalier universitaire de Pongé, une structure de santé publique où des milliers de personnes se rendent tous les jours pour des consultations. Non loin de là se trouve un laboratoire d'analyse où des malades et accompagnants de malades s'y rendent pour effectuer certaines analyses courantes. La présence de cette structure privée n'est pas vue d'un bon œil par le premier responsable de l'hôpital. Il dénonce une concurrence illégale. Ilo Bela Dial, directeur général du CHU de Pongé.
Nous sommes en train de voir avec les services qui ont donné l'agrément l'installation de ce laboratoire parce que ça constitue une concurrence illégale pour l'hôpital. Si vous voyez que le laboratoire marche, c'est qu'il y a des complicités au sein de l'hôpital. Parce que si tout le monde se disait que le laboratoire de Pongé, il est bien équipé, il a un personnel qualifié, on aurait très rapidement étouffé ce laboratoire extérieur.
Cet avis n'est pas partagé par le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Pour le docteur Aliou Badrawad, c'est la santé de la population qui les préoccupe d'abord. Si un laboratoire s'installe près d'un hôpital, c'est pour soulager les populations, dit-il.
Bon, à quoi cela peut être une concurrence illoyale? Le fait de s'installer près d'un centre, nous, c'est la santé de la population qui nous intéresse, d'abord avant tout. C'est pas des questions de sous. Mais nous mettons la santé de la population. C'est du quoi? Il faut avoir un accès d'abord, que ce soit aux médicaments, que ce soit aux boîtes d'analyse, que l'accès soit facile.
Les spécialistes de la santé ajoutent que si des laboratoires s'installent près des centres de santé, ce n'est pas pour les concurrencer, mais plutôt pour aider les malades.
Une dizaine de clubs de football évoluent dans la région de Saint, mais aucun d'entre eux, depuis plusieurs années, n'a évolué dans le championnat national de Ligue 1. Les dirigeants de cette discipline et responsables des clubs de la localité expliquent cette situation par plusieurs facteurs. Il s'agit notamment du manque de soutien financier et d'engagement pour les joueurs. Notre envoyé spécial de retour de Saint, Ousmane Alibouli, s'est intéressé au sujet. Voici son reportage.
Au plan national, la performance du football des Saints n'est pas satisfaisante selon certains de ses dirigeants. Il estime qu'il faut un changement de mentalité pour développer le football de cette région. Mokhtar Djombana, secrétaire général du district de football des Saints.
Le football des Saints, comme dans d'autres localités, a un problème financier parce qu'il manque des sponsors. Les moyens ne sont pas réunis en réalité pour être au top des compétitions. En plus, les jeunes ne sont pas très motivés.
Ses propos sont courts. corroborée par les responsables des clubs de football des Saints. Parmi eux, le président du club de Kemparana AC, une localité à environ 50 km des Saints. Il affirme que les clubs de 2e et 3e division ont d'énormes difficultés. Emmanuel Dissonge Dambélé, président du Athletic Club de Kemparana.
Même le déplacement des joueurs pour aller dans une autre localité pour jouer, les frais incombent au club. Le district n'a pas les moyens. Est-ce qu'en réalité, on a envie à ce que le football se développe? Pourtant, si on essaie de voir la plupart des clubs de 2e et de 3e division, c'est eux qui ravitaillent ces clubs de 1ère division. Mais s'il y avait au moins 2 millions, 3 millions, ou bien si l'État, tous les clubs de 2e division, dans n'importe quelle zone, ou bien de 3e division, la fédération se donnait d'acheter des jeux de maillot, des crampons, des ballons, là, ça peut marcher. Le sponsor, ça, au niveau de Bamako.
Les responsables du football de cette région disent mettre tout en œuvre pour qu'au moins un club de cette localité soit en 1ère division. Ousmane Nyaliboulou, de retour des sangs pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, le premier convoi de 53 camions remorques transportant 1600 tonnes de coton fibre a franchi la frontière Mali-Mauritanie à partir de Gogi, cercle de Nioro. C'était hier lundi 28 février 2022. L'évacuation de la fibre de coton par le corridor Bamako-Nouakchott a été initiée par la Compagnie malienne de développement des textiles, la CMDT. L'objectif est d'atténuer les effets de l'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. La cérémonie a été présidé par le ministre du Développement Rural. Il était accompagné par ses collègues des transports et de l'urbanisme. La rencontre a enregistré la présence des autorités politiques et administratives de Nioro du Sahel. Et nous retrouvons à présent Mariam Koulibaly pour le grand dialogue de ce soir. Bonsoir Mariam, c'est quoi le thème d'aujourd'hui?
Réforme électorale, quel est l'état des lieux? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui et nos invités sont M. Fousseyni Diop, membre de la mission d'observation des élections au Mali, modèle Mali, Boubacar Bokoum, politologue, et Mme Loda Koulibaly du réseau des jeunes femmes leaders, des partis politiques et organisations de la société civile, REGEFPO.
Bon débat Mariam, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous rappelle que toutes ces informations, vous pouvez les réécouter à tout moment. Il suffit d'aller sur notre site web www.studiotamani.org. Le Mali a célébré aujourd'hui, 1er mars, la Journée mondiale de la protection civile. Au Mali, de façon générale, les services de la protection civile sont beaucoup sollicités. En 2021, les sapeurs-pompiers ont fait 10 340 interventions, rien que dans la capitale, Bamako. Les responsables de la protection civile affirment aujourd'hui être mieux équipés pour faire leur travail. Cependant, les habitants de la capitale déplorent la lenteur dans les interventions des services de la protection civile. Un reportage signé Mohamed Ali Agalaïda.
À Bamako, les responsables de la protection civile affirment avoir aujourd'hui des moyens pour faire le travail que la population attendait. Selon le directeur régional de Bamako, les services de la protection civile ont reçu des équipements. Lieutenant-colonel Adama Diatigui Diara, directeur de la protection civile de Bamako.
Dieu merci, par rapport aux moyens, aux ambulances, et ambulances médicalisées, ambulances de secours et associés. C'est l'occasion de remercier nos autorités. Parce que tout récemment, le ministère de la Sécurité a obtenu des véhicules à la DGPC. Et sur ces véhicules, premier lot, Bamako a eu 10. Et le deuxième lot, nous l'attendons fermement. Le DG dit que la priorité est donnée à Bamako.
À Bamako, nombreux sont ceux qui reprochent au service de la protection civile la lenteur dans leurs interventions. Certains habitants affirment même ne pas connaître le numéro qu'il faut appeler pour les secours.
Il faut qu'un porteur appelle pour que ça soit répondu.
Ils font bien le travail.
Bon, des fois, ils sont un peu lents dans leur procédure. C'est-à-dire, on les appelle des fois, on ne les trouve pas, on n'arrive pas à les joindre. Même si on arrive à les joindre, ils sont lents.
Non, je ne connais pas le numéro de la protection civile.
Non, je ne connais même pas leur numéro.
Je n'ai jamais essayé de les contacter.
Selon les responsables de la protection civile de Bamako, leurs services rencontrent quelques difficultés. Celles-ci sont liées notamment à l'incivisme de certains citoyens. Lieutenant-colonel Adama Diatigui Diara, directeur de la protection civile de Bamako.
Les gens entendent nos véhicules arriver. Nous mettons la sirène, les feux de détresse, mais malgré tout, certains ne cèdent pas la voie et d'autres profitent même du bruit de nos engins. Au lieu de nous céder la voie, ils continuent à nous barrer la route pour avoir la route parce qu'il y a certains aussi qui nous suivent directement. Ils mettent les feux de détresse, ils nous suivent comme s'ils sont vraiment en convoi avec nous. De trois aussi, ceux qui viennent faire des photographies et des vidéos quand nous intervenons. Et ils viennent, ils gardent leurs véhicules et motos, ils barrent la route au secours.
Le lieutenant-colonel Diarra assure que les services de la protection civile vont connaître des innovations dans les mois et les années à venir. Les 80 00 1201 et les 90 50 2676 sont les numéros pour joindre la protection civile, précise ses responsables. Il faut signaler que cette journée de la protection civile a été célébrée à Kai, Kuchala et Kulikoro.